Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour, ici Esther pour vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Activiste. Comme lors du précédent confinement, on poursuit les enregistrements à distance. Cette semaine, on reçoit Colline Pélissier, fondatrice de la chorale féministe Nos Lèvres Révoltées. On va parler de chant et de portée politique, de la nécessité d'avoir des pratiques militantes qui font du bien, ou encore de Fifi Brin d'Acier. Et pour l'occasion, vous retrouverez au fil de cet épisode de petits interludes musicaux placés ça et là pour le bien de vos oreilles et de vos petits cœurs. Bonjour Colline.
Bonjour Esther.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que Nos Lèvres Révoltées ?
Alors Nos Lèvres Révoltées, c'est une chorale féministe, un chœur féministe qui chante pour la fin de toute oppression liée au genre et aux sexualités.
Ambitieux ! Moi je voudrais savoir, quand tu as créé Nos Lèvres Révoltées, est-ce que c'est l'idée de la chorale qui est venue d'abord ? Puis tu t'es dit, tiens, une chorale féministe, pourquoi pas ? Ou est-ce que tu cherchais à monter un projet féministe et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas une chorale ?
Alors en fait, un peu ni l'un ni l'autre, parce que c'est arrivé un peu par hasard, parce qu'on m'a demandé en fait de chanter au départ l'hymne des femmes avec des amis, parce que moi je fais du chant pour le plaisir dans ma vie perso, et on m'a demandé de chanter ça à un événement du Haut Conseil à l'égalité, parce que les femmes qui organisaient cet événement savaient que je chantais. Et en fait, ça a tellement bien marché, ça a tellement plu, ça a tellement touché les gens qu'en fait, on nous a rappelé, qu'on nous a demandé de nous rejoindre, etc., etc. Et que j'ai du coup décidé d'en faire une association et de développer le répertoire et de se poser des questions sur notre positionnement féministe et aussi sur la qualité musicale qu'on propose.
Du coup, c'est quoi en fait les spécificités de votre chorale concrètement ?
Alors concrètement, c'est une chorale en mixité choisie. Donc,
est-ce que tu peux détailler ce que ça veut dire ?
Ouais, alors on est du coup une chorale ouverte à toutes les femmes, toute personne qui se définit comme femme, donc femme cisgenre ou femme transgenre. On a aussi décidé très récemment, là, en écrivant les statuts de l'association, qu'on voulait être ouverte aux personnes non binaires, en considérant qu'il y avait une oppression de genre pour les personnes non binaires. Et donc on n'est pas ouverte aux hommes. Donc l'idée, c'est vraiment de chanter entre femmes, pour les femmes, entre nous. Et on chante des chants résistants, donc soit féministes, soit des histoires de lutte. Il y a des choses qui ne sont pas directement féministes, mais qui sont liées à une lutte anticapitaliste ou à une lutte par rapport à une classe sociale, etc. Donc du coup, on choisit nos chants, on les vote et on les arrange pour plusieurs voix. Et donc l'idée, c'est aussi de proposer une offre musicale qualitative. Et donc de pas seulement chanter, entre guillemets seulement, c'est déjà très bien, hein, de chanter des chants militants en manif, etc. Mais de proposer un vrai travail vocal et donc de mettre en valeur le message qu'on porte par un vrai travail d'arrangement. Donc on arrange à deux ou trois voix à chaque fois, ce qui représente beaucoup de travail, mais qui du coup donne aussi tout son sens à notre démarche, à la démarche qu'on a choisi d'avoir.
Et donc, les chants que vous chantez, c'est quoi, par exemple ?
Alors, par exemple, c'est l'Allega. L'Allega, c'est une chanson qui a été écrite en Italie au 19e siècle, par les repiqueuses de riz, qui étaient donc des femmes ouvrières et qui disent en italien « Et donc, la Ligue socialiste grandira, abat les patrons, et nous sommes des femmes, nous sommes courageuses, nous voulons notre argent ». Et nous revendiquons le droit de travailler et de gagner une somme d'argent correcte. C'est par exemple, on chante You Don't Own Me, qui a un message beaucoup moins politique, qui est une chanson de Leslie Gore, qui dit en fait en anglais je ne t'appartiens pas, je ne suis pas ton objet, et voilà, et qui porte un message. You don't own me. Donc ça va de chansons très pop avec un message féministe, on va dire, assez édulcoré, assez facile, à des chansons vraiment avec une histoire politique un peu plus poussée. C'est toujours d'expliquer pourquoi on chante ça, parce qu'on ne pense pas que ça a beaucoup d'intérêt de juste chanter ça, mais du coup d'être vraiment dans une démarche de sensibilisation, voire d'éducation, en disant bah voilà pourquoi on chante ça, voilà de quelle histoire du féminisme ça témoigne. Évidemment, si on chante quelque chose, je ne sais pas, par exemple, on a envisagé de chanter l'hymne des suffragettes, ben, ce n'est pas notre vision actuelle du féminisme, mais on considère que historiquement c'est intéressant aussi et que ça témoigne d'une période de l'histoire. Donc on fait toujours un travail de contextualisation dans les chants qu'on choisit.
Quand tu dis contextualisation, c'est vis-à-vis de votre public, j'imagine ?
Ouais, vis-à-vis de notre public, qui sont du coup des gens assez diversifiés, mais pour l'instant surtout des gens qui viennent à des événements soit féministes, soit militants, puisqu'on est souvent appelé par des associations ou par des collectifs pour chanter, ou par aussi des mairies, etc., pour chanter dans des événements, mais on veut aussi développer des concerts 100% nous, donc trouver des salles, etc., où ce soit vraiment nous qui chantions. Et aussi, gros projet de l'année, c'est des ateliers pédagogiques à l'école, au lycée, au collège. Et donc, ça serait bah, pareil, ce travail de sensibilisation par le chant choral, mais avec des enfants, des jeunes.
Waouh, ça c'est...
C'est un nouveau pan.
J'avais jamais pensé qu'on pouvait faire une sensibilisation féministe à l'école en passant par le chant, parce que justement, on pense souvent aux interventions, je sais pas, genre théâtre forum, par exemple, ou ce genre de choses sur plein de sujets différents, mais j'avais jamais pensé qu'on pouvait l'apporter par le chant. Est-ce que tu crois que le chant, ça permet un accès détourné et du coup plus facile pour des élèves ou même pour n'importe qui à ces thèmes-là?
Je pense que oui, et je pense que aussi la qualité musicale qu'on a fait qu'en fait les gens écoutent, sont contents d'écouter, trouvent ça joli, et qu'ensuite du coup ça fait passer un message parfois fort et parfois très militant, et souvent, et du coup on a une porte d'entrée en fait avec le chant. Et je crois que dans le cas des élèves, alors à vrai dire je m'avance un peu parce qu'on l'a pas encore fait, mais je pense que dans le cas des élèves, c'est aussi un moyen de rapprocher une classe. Enfin, c'est aussi un moyen de souder un groupe, le chant. Et le chant choral, c'est hyper fort pour ça. Et c'est aussi pour ça que ça me semble pertinent dans notre cas. C'est qu'en fait, ça rapproche énormément. Et on a un sentiment d'osmose qui pour moi, ne peut se trouver nulle part ailleurs. Ou alors peut-être dans la danse, ou j'imagine dans des choses comme ça. Mais du coup, je pense que ça peut d'abord créer une bonne dynamique de groupe dans une classe, par exemple, et ensuite permettre d'aborder des sujets féministes. Mais on est en train de construire, est-ce que c'est parce qu'on a envie de les faire chanter, mais aussi de potentiellement leur faire écouter certaines choses pour aborder différentes questions du féminisme, quoi.
Oui, dans ce cadre-là, j'imagine que vous venez pas à toute la chorale dans la classe, donc c'est peut-être difficile de reproduire aussi les harmonies donc, que vous avez sinon.
Ouais.
Et du coup, justement, tu parlais de contextualiser vos chants. Là, tu nous as parlé rapidement de La Lega et de You Don't Owe Me. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous expliquer? On va en mettre un extrait après.
Alors, il y a Le Pieu, par exemple. Le Pieu, c'est une chanson, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de chansons qui n'étaient pas forcément directement féministes. C'est une chanson de Louis Lac qui a été écrite pendant la dictature de Franco. Et donc, qui appelle à la liberté et qui appelle à se séparer de ce pieu qui nous oppresse. Et nous, on a décidé de la féminiser. Donc, au lieu de dire du temps où je n'étais qu'un gosse, on dit du temps où je n'étais qu'une gosse. Donc, on a pris le parti de féminiser toute la chanson. Et c'est un appel à se libérer de l'oppression.
Pour toi, ça fait sens de reprendre donc ces chansons qui n'ont pas forcément de visée féministe, mais qui peuvent être sur une autre oppression de base pour se les approprier de manière féministe. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche et comment tu lis en fait ces différents combats ?
Bah, je trouve que cette chanson-là, oui, ça a tout son sens parce qu'en fait, quand on la lit, on peut absolument pas savoir que ça parle de la dictature de Franco et que ça parle de toute cette histoire-là. On peut seulement lire une oppression qu'on voit en étant enfant, qu'on subit en étant enfant, avec laquelle on grandit et de laquelle on aimerait se détacher. Donc je pense que ça peut s'appliquer à plein de luttes et d'autant plus que du coup, nous on met aussi en valeur le concept d'intersectionnalité, on défend un féminisme intersectionnel. Et donc, on pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, une oppression de classe, une oppression de race, une oppression de genre et de sexe, mais aussi des oppressions sur les sexualités, sur l'orientation sexuelle, sur tout un tas de choses. Et du coup, ça nous semble pas aberrant dans certains cas de relier différents combats en fait en chantant. On a chanté par exemple à beaucoup d'événements écoféministes. Qui parle de l'écologie et du féminisme, et on a essayé de trouver des chants qui pouvaient s'appliquer à ces deux combats.
Ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe.
voudrais savoir pour toi, Colline, ce que c'est que la politique. Comment tu la définis? Quelle image tu projettes sur ce mot-là?
Alors, je pense que pendant longtemps, j'ai projeté les partis politiques, ce que la politique, voilà, la politique au sens de politique locale, etc. Après, je pense que si on parle notamment d'action politique, c'est plus large que ça. Que finalement, l'action politique, je pense que c'est de l'engagement politique. Or, l'engagement politique, il peut passer par un engagement associatif ou par un engagement personnel, citoyen. Après, je pense quand même que la politique, elle est définie par le fait qu'il y a quelque chose de collectif, que c'est pas qu'il y a forcément quelque chose, une volonté de transformer le monde dans lequel on vit, d'une façon ou d'une autre, et qu'on peut faire de la politique de plein de façons différentes, et que toutes ces façons de faire sont probablement complémentaires, même s'il y en a qui sont plus essentielles que d'autres. Je pense que la chorale féministe, c'est essentiel, mais c'est probablement moins essentiel que d'autres actions politiques. Enfin, en tout cas, c'est pas à placer sur le même plan, évidemment.
Mais donc, pour toi, la chorale féministe, c'est quelque chose de politique?
Pour moi, c'est quelque chose de politique, ouais, parce que c'est une forme d'engagement associatif et politique qui défend une cause. Et je pense que c'est, enfin, je crois que c'est la définition du militantisme, d'être engagé politiquement ou associativement pour défendre une cause. Et donc, c'est ce qui se passe avec Nos Lèvres Révoltées. Et ce qui est assez chouette, c'est que je pense que la chorale permet à certaines femmes de s'engager d'une manière assez originale. Et par exemple, beaucoup qui sont venues en manif pour la première fois avec la chorale. Parce que c'est pas quelque chose qu'elles auraient fait seules, ou c'est pas quelque chose qu'elles auraient porté seules, ou elles auraient hésité, etc. Et là, le fait d'être inclus dans un collectif et de chanter ensemble, je pense que ça peut aussi être un premier déclic vers potentiellement d'autres formes de militantisme et d'autres formes d'action politique. Parce que c'est quelque chose de aussi très plaisant, hyper sympa, il y a une super bonne ambiance, on s'amuse beaucoup, on fait des belles choses. Voilà.
Donc en fait, en termes de bénéfices, c'est autant pour vous que pour les effets que ça peut avoir sur le public ou sur la société, quoi.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. Parce qu'il y a un vrai plaisir de chanter ensemble. Et nous, ce qu'on avait comme idée, c'était aussi de défendre la sororité, le fait qu'il fallait s'aimer entre femmes, qu'il fallait se soutenir entre femmes. Il y a une chanson parfaite pour parler de ça, c'est Frangine de Anne Sylvestre, qu'on n'a pas encore chanté, mais qu'on va peut-être chanter pendant le confinement, puisqu'on va peut-être faire une vidéo confinée. Et qui dit « On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps ». Et je pense que ça parle assez bien de la condition des femmes entre elles et de ce manque de sororité parfois. Et donc chanter ensemble, c'est vraiment s'unir, se soutenir et symboliser cette sororité. Et je pense que ça nous fait beaucoup de bien à nous personnellement, à toutes les chanteuses de la chorale. Et j'espère aussi que ça peut avoir un impact sur les gens qui nous écoutent, de sensibilisation ou de questionnement ou de découverte tout simplement aussi d'un répertoire féministe, parfois de chansons oubliées, de compositrices oubliées, et que voilà, que ça peut avoir un impact au-delà de nous.
On parle de politique et de chant, mais en fait, tout ça, ça peut se concevoir au sens plus large de l'art et du sens politique de l'art.
Ouais, je pense que c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que c'est vrai que la chorale réunit deux passions, le féminisme et la musique, mais en fait l'art plus généralement, et je me suis beaucoup posé cette question de la performativité de l'art, d'abord de la performativité des mots, parce que je pense que par exemple la lecture peut être un vrai moyen de devenir un sujet politique, de se politiser, de s'engager, de prendre conscience de plein de choses, et en fait la musique peut l'être aussi. La musique engagée peut l'être aussi, et il y a plein d'exemples de groupes engagés qui, je pense, changent des vies et changent la façon de voir le monde. Et c'est à la fois changer la façon de voir le monde et à la fois construire des imaginaires, notamment avec la lecture, des imaginaires collectifs, proposer des façons de faire, proposer des façons de militer par l'art qui sont nouvelles. Et je sais pas, ça peut aussi être avec le théâtre, avec la danse, avec plein de choses. Mais je pense que l'art a un vrai rôle à jouer dans la construction d'un imaginaire politique et d'un monde qu'on voudrait faire advenir. Et c'est ça aussi qu'on recherche avec la chorale, avec cette idée de performativité, aussi la performativité en fait du fait de chanter ensemble entre femmes. En fait, on performe il y a une performance du féminisme. On performe ce que ça peut être, un monde où on se soutient et où on s'unit.
J'aimerais beaucoup aussi remonter au fondement de ton engagement, parce qu'on ne crée pas une chorale féministe comme ça, de nulle part. Et donc on va revenir bien dans le passé. Est-ce que tu aurais un souvenir que tu pourrais qualifier de premier souvenir politique, en quelque sorte ?
Alors, je suis à bout.
Ou bien une première indignation, le premier truc qui t'a conduit à atteindre.
Je suis beaucoup allée en souvenir politique, je suis beaucoup allée en manif avec mes parents quand j'étais petite. Je me souviens des manifs du 1er mai, je me souviens de l'ambiance des manifs petites. Donc, alors, j'ai du mal à me souvenir pourquoi étaient les manifs il y a 20 ans, mais j'ai quand même ces souvenirs-là de manifestations avec mes parents. Donc, j'ai quand même eu aussi un environnement familial. Qui était politique, surtout ma mère, ma grand-mère. Je me souviens de la manifestation pour la 6e République avec ma grand-mère, par exemple, avec la France insoumise. Après, d'indignation, je ne suis pas sûre de me souvenir de quelque chose de très précis, mais plutôt d'une indignation diffuse quant à la condition des femmes et dont je sais que je parlais petite. Que très jeune, je me disais, mais c'est quand même incroyable. Et donc j'ai toujours eu un peu ça en tête. Et j'ai en fait aussi rétrospectivement réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup lu et vu de films ou de livres qui mettaient en scène des héroïnes féminines. Alors, je pense pas que c'était un choix conscient de mes parents. Donc, c'était peut-être plutôt que c'est ce qui me plaisait. Voilà. Donc, j'imagine que ça m'a aussi forgé.
Et est-ce que tu te souviens du moment où t'es passé de... Tu parlais justement à l'instant du fait que tu évoquais beaucoup ces injustices. Est-ce que tu te souviens du moment où t'as commencé à oser prendre la parole, vraiment défendre ton opinion, pas juste dans ton fort intérieur ou dans ton cercle restreint, dire « bah dis donc, ça c'est bizarre quand même », mais vraiment prendre position?
Bah, je pense que la première fois que j'ai pris position, c'était au lycée, parce que j'étais au conseil de la vie lycéenne. Et j'avais proposé qu'on parle de harcèlement, qu'on parle de sexisme au lycée, etc. Ça n'avait pas été très suivi. Je ne me souviens plus très bien si c'était de ma faute ou si c'était la faute des profs. Mais en tout cas, je sais que j'avais essayé de faire ça. Et j'avais organisé un concert interlycée. Entre plusieurs lycées de la région parisienne, et on avait essayé de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur scène. Et donc je me souviens que j'avais un peu bataillé là-dessus parce que bah, spontanément il y avait plus de garçons qui avaient des groupes de rock à l'époque. Donc c'était des petits engagements comme ça. Ouais,
ouais, mais du coup le lien entre musique et engagement pour toi il date,
ben en fait,
d'il y a longtemps,
il date d'il y a longtemps. Mais après, le lien entre musique et engagement, c'est marrant parce que j'ai fait mes études en horaire aménagé. Donc j'étais au lycée, au collège le matin et au conservatoire l'après-midi. Je faisais du chant dans une maîtrise. Et en fait, c'était une maîtrise de femmes, de filles. Donc on était 50 filles.
Dans une maîtrise.
Une maîtrise, c'était un cœur d'enfant en fait. Donc on avait entre 12 ans et 18 ans et on était 50 filles tout le temps ensemble, tous les après-midi, on partait en tournée, on passait toute notre vie ensemble. Il n'y avait pas de garçons puisqu'ils étaient virés à partir du moment où ils muaient, donc en gros à 13-14 ans quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette ambiance de filles, de sœurs très jeunes. Et j'ai passé du coup beaucoup plus de temps avec des filles qu'avec des garçons pendant toute mon adolescence quoi.
Et est-ce que tu crois que c'est de là donc, que tu as tiré cette envie et ce besoin de... Enfin, cette ambition de sororité par le chant ?
Je pense que ça vient en partie de là. Après, je viens aussi d'une famille avec que des femmes. J'ai des sœurs et des cousines majoritairement. Enfin, j'ai deux cousins qui se battent en duel, mais c'est surtout des sœurs et des cousines, et on a toujours été très proches, on s'est toujours beaucoup soutenues, et donc je pense que ça vient quand même beaucoup de ma famille, et après aussi beaucoup effectivement de la maîtrise et de l'envie d'être ensemble, de chanter ensemble, et de porter un regard bienveillant les unes sur les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui d'ailleurs n'était pas vraiment le cas, quand j'y pense, non plus, à la maîtrise, enfin au cœur d'enfant où j'étais, c'était pas nécessairement le cas parce qu'on nous poussait à la compétition, parce qu'on était des filles peut-être, mais c'était aussi lié évidemment au milieu de la musique classique, etc. Donc on nous poussait quand même vachement à la compétition, etc. Et là, avec le cœur, justement, je retrouve un rapport hyper apaisé au chant, un rapport beaucoup plus sain à la façon de chanter et à la façon de se faire plaisir et de ne pas être du tout dans un esprit de compétition, etc. quoi.
Ouais, ça s'entend quand tu le décris, en fait, que c'est un groupe de femmes et comme si ça donnait une forme d'empouvoirment aussi, en fait, quelque part, ce chant. On en parlait tout à l'heure des bénéfices, entre guillemets, pour permettre à d'autres de s'engager peut-être plus loin, mais ça va aussi, j'imagine, à un niveau très intime, parce que le chant, c'est intime aussi.
C'est hyper intime, ouais. Ouais. Ouais, c'est hyper intime et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand je sors de répétition, je suis galvanisée et je pense que c'est le cas de tout le monde. Enfin, on a vraiment un truc où en fait, on est hyper contente de le faire alors que ça prend du temps et que moi, j'étais pas sûre qu'il y ait un tel engouement en fait de la part d'autant de filles, autant de femmes. Et en fait, je pense que c'est vraiment que c'est hyper puissant de chanter ensemble et de se soutenir comme ça. Il y a quand même quelque chose de physique dans le chant. Donc d'assez viscéral et effectivement de très intime, et c'est aussi une mise à nu totale pour moi, le chant, parce qu'il y a quand même quelque chose de d'oser chanter, d'oser, parce qu'il y a des musiciennes dans le chœur, mais il y a aussi des femmes qui sont pas plus musiciennes que ça et voilà, et qui osent chanter devant les autres et qui se produisent en concert, et je pense que oui, effectivement, ça donne du pouvoir et de la force.
Tu parles de ressortir de répétition galvanisée et enthousiasmée. Ça a l'air d'être une manière aussi hyper joyeuse de militer, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Enfin, dans beaucoup d'environnements militants ou d'activités militantes, on est dans un combat qui peut être à la fois très difficile à mener et éreintant, et enfin, drainant au sens mental du terme, où on sort rincé de ces combats, de ces réunions, de ces manifestations, voilà. Et là, tu décris une manière de s'engager, de se battre pour ses droits, qui régénère, en fait, à l'inverse.
Ah, complètement. Ouais, complètement. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça peut être un premier pas vers d'autres formes de militantisme. Mais c'est aussi retrouver une joie dans le fait de militer et de porter un message. Parce que c'est vraiment hyper, hyper kiffant, en fait, de chanter ensemble. Et après, il peut y avoir des moments où c'est moins, je sais pas, un public pas réceptif, quelqu'un qui va faire une remarque très désobligeante sur ce qu'on fait, sur le fait qu'il n'y a pas d'intérêt, etc. Bon, il y a toujours des questions sur la non-mixité, enfin sur la mixité choisie, toujours des choses. Mais dans l'ensemble, ça reste hyper, hyper joyeux et surtout, ça reste très collectif. Donc en fait, on n'est jamais seul face à autre chose. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de formes de militantisme. C'est souvent collectif, et heureusement, parce que seul, ça serait dur. Mais là, c'est particulièrement collectif, puisque sans collectif, ça n'existe pas. Un chœur, il faut qu'on... Enfin, d'ailleurs, on le dit aux événements, on dit, en fait, on veut bien venir, mais il faut qu'il y ait au moins 15 chanteuses qui soient disponibles et qui aient envie de venir à cet événement. Parce que sinon, on ne peut pas chanter, en fait. On ne peut pas le faire. Donc cette partie collective, oui, elle est hyper, hyper joyeuse. Et c'est une manière très sympa de s'engager. Après, encore une fois, je ne mets pas ça sur le même plan que d'autres actions politiques et d'autres formes de militantisme qui sont peut-être plus nécessaires, plus nécessaires au sens de vital. Plus vital, voilà.
Mais en fait, alors d'un côté, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire, en tout cas. Et en même temps... je trouve de plus en plus que c'est vital, en fait, d'avoir des moments de joie et des moments qui font du bien, tout simplement, dans le militantisme. On ne peut pas se limiter à ça, mais en fait, on ne peut pas non plus combattre sur la longue durée. On n'est pas dans un sprint, en fait, on est dans un marathon. Et si on ne prend pas, pendant un marathon, des petits trucs pour se booster et tenir toute la course... ça marche pas à la fin, on n'arrive pas au bout. Donc je pense que voilà, en fait, je suis pas sûre que ce soit pas vital au final de se créer des espaces comme celui-ci, et ça peut évidemment prendre plein de formes différentes, et ça n'enlève en aucun cas quoi que ce soit aux autres formes de militantisme, Mais je pense que, comme tu le disais au début, c'est aussi quelque chose juste de très complémentaire, tout simplement.
Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que ça me fait plaisir, en fait, surtout.
Et tu parlais quand même d'adversité il y a quelques minutes. Moi, je veux bien que tu développes un peu, parce que c'est vrai que ça me rend un peu curieuse de savoir quelle forme d'adversité on rencontre quand on est juste une chorale féministe. A priori, c'est quand même pas trop... Enfin, on se dit pas, ouais, c'est hyper menaçant, une chorale féministe. Mais visiblement, vous arrivez quand même à susciter de l'animosité. Déjà, est-ce que c'était quelque chose auquel tu t'attendais, une chose à laquelle tu t'attendais quand t'as lancé cette chorale, quand t'as décidé de faire de ce projet une association? Et comment vous le gérez, en fait, quand ça se produit?
Non, franchement, à vrai dire, très peu. On a eu très peu de problèmes d'adversité, parce que déjà, je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on chante dans des environnements déjà militants et déjà conscientisés. Après, par exemple, se poser la question, en fait, on voulait faire, par exemple, un grand concert de Noël en plein air. On s'était dit dans un endroit très passant, où justement, on sensibilise des gens qui n'ont rien à voir avec la cause, qui ne connaissent pas forcément le féminisme, etc. Et je pense que là, ça aurait pu plus poser question... notamment dans les moments où on présente les chants, en fait. Pas tant dans les moments où on chante, mais dans les moments où on présente les chants et où on explique, ben, ça représente ça, ça porte telle parole, ou en disant, ben, en fait, on refuse les hommes dans cette chorale, puisque la mixité choisie, je pense que c'est toujours un peu un débat pour plein de gens qui comprennent pas vraiment. Et donc, je pense que ça aurait pu être ça. Après, on a reçu, quelques messages sur Facebook ou Instagram, mais très très peu. Qui disait pourquoi est-ce que vous êtes que des femmes, à quoi ça sert, c'est pas terrible, mais rien de très méchant, et on a cette chance aujourd'hui, et c'est aussi lié justement à cette forme entre guillemets douce de militantisme, quoi.
Et qu'est-ce que vous répondez donc par exemple à ceux qui vous demandent pourquoi vous êtes que des femmes?
Ben, franchement, moi, je m'embarrasse pas trop. J'explique déjà qu'il y a un équilibre des voix. Que deuxièmement, aucun homme ne nous a jamais demandé de nous rejoindre. Et que.
Sacré argument.
Voilà. Et qu'en plus, on a envie d'être entre femmes, on a envie de partager une expérience commune qu'on a toutes vécue, d'être une femme. Et que c'est cette expérience-là qui prévaut dans cette chorale.
Ok, clair, net, précis. donc cette chorale, on en parle beaucoup tout à l'heure. Est-ce que c'est ton premier engagement concret, si j'ose dire, ou est-ce qu'avant t'es passé par d'autres formes d'organisation, de collectif, de mobilisation?
Alors, je suis jamais passée par aucun engagement d'associatif féministe. J'ai été dans des associations pour la culture dans mon quartier, dans le 19e à Paris. J'ai été dans des associations pour parler du fait religieux, plein de causes différentes, ou plutôt écolo, etc. Donc j'ai eu des petits engagements plutôt ponctuels comme ça dans différentes associations ou collectifs, mais plutôt ponctuels. Et en fait, féministe, jamais. Et je pense que je suis sûre que c'était lié au fait que, comme c'était ce qui me tenait le plus à cœur, c'était vraiment mon combat, quelque chose qui me touchait, sur lequel j'avais beaucoup lu, que j'avais étudié, etc. En fait, j'arrivais pas à me dire, ben, je choisis cette association-là, avec tous les positionnements qu'elle implique. Et en fait, peut-être que je suis pas d'accord exactement avec ce qu'elles disent là. Et en fait, peut-être que ça me va pas la façon dont ça marche. Et en fait, je pense que j'étais un peu dans ce mythe de l'association parfaite ou de l'engagement parfait. Comment faire pour que ce soit exactement comme je pense le féminisme, ce qui est un peu égoïste, et en plus je suis persuadée, enfin convaincue, qu'il y a plein d'associations féministes fantastiques et avec des positionnements hyper différents, et qu'il y a largement de quoi trouver quelque chose. Mais j'ai toujours eu un peu cette crainte de me dire, bah non, ça c'est un peu trop comme ci, ça c'est un peu trop comme ça. Et comme ça me tenait hyper à cœur, et qu'aussi ça faisait partie de ma vie dans mes études et dans mon quotidien, parce que, enfin, moi dans ma vie perso, etc., je me suis jamais engagée en fait dans une association féministe, donc c'est la première fois avec Nos Lèvres Révoltées que je porte un engagement comme ça féministe.
Mais en fait, tu touches à un truc très très précis, mais qui, je pense, freine énormément de personnes à s'engager dans des groupes, effectivement. Enfin, moi, je l'avais beaucoup entendu quand j'étais plus jeune. Genre, et je l'ai dit d'ailleurs, moi aussi, quand j'étais plus jeune, que non, mais moi, de toute façon, je ne rejoindrais jamais un parti politique parce qu'il n'y en avait pas un seul qui pensait comme... Enfin, j'avais pas envie de me retrouver dans un carcan, en fait, et de pas pouvoir avoir mes positions hors de l'organisation. Ce qui est à la fois très, très présomptueux et, et très, je pense, naïf par rapport à ce que c'est que cet engagement-là, parce que c'est naïf de se dire que dans une organisation, tout le monde pense exactement de la même manière et qu'il n'y a pas de débat interne. En fait, il y a toujours des débats internes. Mmh. Et justement, tout à l'heure, toi, tu faisais aussi référence aux discussions que vous avez eues à l'intérieur de la chorale pour en définir le positionnement féministe. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu ?
Ouais, bah on a beaucoup parlé de comment on se positionnait. Et justement, c'est en fait, moi, j'avais à cœur, avec ce que je viens de dire par rapport à mon expérience personnelle de ça, ce qui effectivement est très, très présomptueux. Hein, mais je pense que tu as raison quand tu dis que ça freine beaucoup de gens de s'engager. Parce que par exemple, moi, je me disais un truc un peu bête, mais je me disais, mais si je m'engage là-dedans et que je me rends compte qu'en fait, c'est pas tout à fait, que je suis pas d'accord avec tel point, comment est-ce que je pourrais... Ce qui, en fait, je pense, est un peu absurde, hein, parce que effectivement, il y a toujours des débats en interne et qu'on n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec l'organisation dans laquelle on milite, heureusement. Mais du coup, ce qui nous a tenu à cœur aussi avec nos Lèvres Révoltées, c'est de dire que on avait une base commune. On avait une base commune de bah voilà, un féminisme intersectionnel, une base sur donc voilà, un féminisme qui soit pas raciste, qui soit pas classiste, enfin en tout cas qui essaye le plus possible. Et qui prennent en compte ces différentes oppressions. Donc ça a été une base commune qui a été actée. On a parlé aussi d'évidemment inclure des femmes transgenres et des personnes non binaires. En revanche, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas voulu trancher, parce que l'idée c'était aussi que chacune dans cet espace-là pouvait se construire son militantisme. Et que chacune, c'était un espace de construction, voilà, que c'était un espace vraiment de construction du militantisme et de construction des positionnements féministes, puisque en fait il y a des filles qui sont là parce qu'elles sont féministes. Hyper convaincues et qu'elles ont envie de le vivre par la musique, mais il y a aussi pas mal de filles qui sont chanteuses, qui ont une sensibilité féministe, qui voilà, qui ont lu un ou deux bouquins, mais qui sont pas et qui s'engageraient jamais dans un collectif féministe, mais qui en fait en venant là se sensibilisent aussi à plein de nouveaux concepts, qui apprennent plein de nouvelles choses et qui construisent vraiment leur militantisme. Et du coup, on a aussi créé un pôle, on fonctionne un peu par pôle et on a créé un pôle médiation. Et l'idée de ce pôle médiation, c'est à la fois de gérer d'éventuels conflits avec le public. Donc si jamais on est amené à avoir des soucis un jour avec le public ou à être mal reçu, etc. Mais aussi de gérer les questions en interne. Et notamment de faire des petits ateliers médiation quand on a le temps. Donc pas à chaque répète parce que ça prend du temps. Mais des ateliers médiation sur un sujet. Donc la transidentité, l'écoféminisme. Parce qu'en fait, il y en a toujours une de nous qui est plus ou moins spécialiste d'un pan du féminisme. Et plein d'autres pas du tout. Et donc il y a eu plein de débats qui ont été hyper intéressants et qui ont parfois d'ailleurs amené au départ de certaines femmes ou certaines filles, certaines chanteuses, parce qu'on n'est pas toujours toutes d'accord. Et après, c'est à chacune de voir si on est capable de gérer des positionnements différents ou pas. Donc par exemple, on a décidé de ne pas trancher sur la question de la prostitution, parce que ça pose des questions avec des histoires, des vécus personnels des unes et des autres qui sont trop différents. Et qu'on n'est pas une organisation politique, qu'on n'a pas non plus vocation à trancher sur tous les débats du féminisme. Donc on a décidé qu'à partir du moment où on avait un socle commun, c'était suffisant pour chanter ensemble et pour porter une parole féministe.
Ouais, j'en profite pour rajouter que dans les associations, collectifs ou même partis, on est aussi là pour apprendre, pour se former, et que les échanges et débats, c'est propice en fait à ça.
Oui, je pense qu'en fait, on a cette idée un peu négative parfois, mais je pense que dans la plupart des associations, dans la grande majorité des associations et des collectifs, il y a une bienveillance, il y a une envie de discuter et de débattre de sujets. Et évidemment, on n'est pas d'accord toujours sur tout à 100%, heureusement.
Dans ton cas, tu t'es aussi formée à la question, t'en parlais tout à l'heure ?
Ouais, j'ai fait un master en études de genre.
Et du coup, j'imagine que ça a aussi contribué à ce que tu finisses par t'engager pour les droits des femmes et pas pour autre chose. C'est une question que j'aime bien poser sur comment t'as choisi ta cause. Pourquoi pas, par exemple, une chorale écolo ? Je sais pas si ça existe, d'ailleurs.
Bah, y a une chorale d'Extinction Rebellion qui existe, notamment. Et il y a une membre de la chorale de Nos Lèvres Révoltées qui fait aussi partie de la chorale écolo Extinction Rebellion. Donc ça existe. Après, moi, dans mon cas, c'était évident parce que c'est vraiment ça, le sujet qui me porte, quoi. En fait, vraiment, ça a été une constante dans tout mon parcours. Ça a été voilà, je m'en souviens petite, ce qu'on disait tout à l'heure. Je m'en souviens. Après, j'ai découvert ça aussi dans certains cours après le bac. Mais déjà au lycée, etc., je me souviens que j'étais toujours celle qui posait la question sur et les femmes, et du coup, comment ça se passe, est-ce qu'on peut parler du féminisme en SES, je me souviens qu'on en avait parlé, ça m'avait intéressée. Et après, en fait, je suis partie en Afrique du Sud pour mes études. Et comme toi, d'ailleurs.
Oui, ça me fait sourire parce que je pense qu'on y était à quoi, un an d'intervalle.
Et c'est pendant cette année-là aussi que j'ai découvert les gender studies, parce que c'est beaucoup plus commun en Afrique du Sud et en fait dans les pays anglo-saxons en général qu'en France, et c'est beaucoup plus considéré comme une matière légitime à part entière qu'en France, où quand on dit « je fais un master en études de genre », les gens disent « en études de quoi ?» c'est pas du tout aussi répandu. Et en fait, en revenant en France, j'ai cherché et je me suis rendu compte qu'il y avait tout à fait des formations très qualitatives qui existaient en France. Et donc, j'ai décidé de suivre, entre autres, un master en études de genre. Ouais.
Et est-ce que le fait d'étudier le genre, ça t'a fait te sentir plus légitime, quelque part, pour te lancer ensuite ? Est-ce que tu crois que ça y a contribué ?
Bah, clairement, je me souviens que quand j'ai découvert les gender studies en Afrique du Sud, il y avait un peu un sentiment de « Ah, mais donc, en fait, c'est pas juste un truc de magazine, c'est pas juste un truc de réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui me touche moi, c'est quelque chose sur lequel les gens ont écrit des livres très sérieux, qui a été étudié, qui peut être étudié. » Et donc oui, je pense que ça m'a clairement donné une forme de légitimité. Et j'ai voulu faire ce master parce que ça m'intéressait, parce que ça me passionnait, mais aussi parce que je pense que j'avais envie de me dire « Ok, en fait, j'ai lu les classiques, je sais de quoi je parle, et je me sens légitime d'en parler, et je suis pas en crise permanente de légitimité sur ce sujet. » Après, je pense pas du tout qu'il y a besoin d'avoir fait ça pour parler du féminisme et pour être féministe, et au contraire, hein, je veux dire, il y a tous les niveaux, et la chorale, on est la preuve, parce que dans la chorale, il y a des femmes qui sont en doctorat en études de genre, voire chercheuses en études de genre, et d'autres qui n'ont mais rien à voir et qui sont dans un domaine complètement différent, et pour qui le féminisme, ça se résume à un magazine, au début en tout cas. Et pourtant, voilà, elles sont toutes féministes et il n'y a pas de degré de légitimité dans cette lutte. Mais moi, c'est vrai que ça m'a aidé à m'asseoir dans la légitimité, ouais. C'est certain.
Ouais, après, t'as raison d'insister, hein, pour les personnes qui nous écoutent. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir un master en études de genre pour être légitime à prendre la parole et à agir sur la question. Vos expériences, vos idées, elles sont légitimes de base. Pas besoin de passer par la case études supérieures ou
non.
Doctorat ou que sais-je.
Non, pas du tout, heureusement.
Je me demandais si malgré tout, ça t'arrive quand même d'être découragée, d'avoir envie de baisser les bras.
Oui, j'ai carrément des moments de découragement. Après, je pense que je suis globalement quelqu'un d'optimiste, que j'ai aussi d'ailleurs eu la chance de choisir là en ce moment cette forme de militantisme qui me rend heureuse, qui me fait plaisir. Donc du coup, ça aide aussi à ne pas être découragée, parce que ça donne une grande force. Après, oui, il y a forcément des moments de découragement et des moments de... Bah, en fait, dès qu'on sort un peu du milieu féministe, de ses copines, de son cercle proche, moi, de ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir une famille assez sensibilisée à ces sujets-là, dès qu'on en sort dans le monde du travail ou dans d'autres milieux, évidemment, il y a quelque chose de souvent très, très, très décourageant. Après, j'essaie de faire de la... J'ai encore l'énergie aujourd'hui de faire beaucoup de pédagogie. Donc je fais beaucoup de pédagogie avec les gens que je rencontre, je prends le temps d'expliquer, j'essaie de pas m'énerver, alors que je pense que c'est parfois très légitime de s'énerver, ou de claquer la porte et de dire j'ai pas envie de t'expliquer en fait. Mais souvent j'essaie encore de le faire parce qu'aujourd'hui j'ai l'énergie pour et j'ai la chance d'être dans une position où ça me coûte pas autant qu'à d'autres d'expliquer et de faire un peu de pédagogie sur ces sujets. Après, oui, je pense qu'il y a toujours des moments de découragement.
Et est-ce que dans ces moments-là, ça t'arrive de puiser le réconfort dans des figures qui t'inspirent ?
Bah, il y a plein de femmes. J'avoue que je lis beaucoup de femmes, j'écoute beaucoup de femmes, je me ressource beaucoup avec des femmes. Alors, comme tout le monde, Virginie Despentes. Hein. et Virginie Despentes, j'ai beaucoup offert King Kong Theory, parce que je trouve que c'est court, très lisible, très clair, très cash, et qu'en fait, ça marche souvent assez bien, même auprès de gens qui sont pas du tout sensibles à la cause féministe. Donc, je me suis souvent servi de cette ressource-là. En plus, il est pas cher, il coûte 6 euros, donc on peut l'offrir beaucoup.
Alors, est-ce que tu peux réexpliquer vite fait ce que c'est que King Kong Theory ?
Ouais, c'est un essai de Virginie Despentes, en fait, qui lit un peu théorie politique du féminisme et de ce que ça veut dire d'être une femme aujourd'hui, et une expérience très personnelle, son expérience de femme et aussi de viol. Et donc, elle parle de pornographie, de travail du sexe, de plein de sujets différents. Et elle parle aussi beaucoup de masculinité, en fait. Et elle parle aussi de ce que ça veut dire d'être un homme, et de comment on peut le vivre autrement, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, je suis plein de gens, plein de féministes actuelles sur les réseaux, que ce soit Lorraine Bastide, Victoire Tuillon des couilles sur la table, toi, plein de femmes engagées, et puis après des classiques aussi que j'essaie de lire et que j'essaie de... Mais après, parfois, il peut aussi y avoir un peu, un découragement de tout le temps lire sur le même sujet. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon milieu professionnel, je ne travaille pas actuellement sur le féminisme. Et je pense que j'y reviendrai à un moment ou à un autre. Mais ça me fait aussi du bien de parler d'autres choses, de voir d'autres choses, de penser à d'autres combats, parce que je ne me vois pas faire un travail qui ne soit pas, de toute façon, engagé, mais pas forcément dans le féminisme, quoi.
Oui, totalement. C'est important aussi de se créer des espaces de respiration, là où on peut.
Ouais.
On approche de la fin de l'interview. Avant de passer aux deux dernières questions que tu as choisies dans notre liste, est-ce que tu peux résumer un peu pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressées, où est-ce que vous êtes basées, si c'est possible de vous rejoindre, etc.
Alors, on est à Paris, mais on veut monter une filiale à Lyon et à Marseille. Donc c'est le projet à Lyon et à Marseille. Après, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de répétitions, etc. Mais on aimerait bien le faire ailleurs en France. Donc on est basé à Paris, on est une cinquantaine de chanteuses. Après, ça tourne, puisque tout le monde n'est pas là toujours aux répétitions et aux événements. Et donc pour l'instant, on a mis une limite à 50 et on a déjà une longue liste d'attente. Puisque ce projet a beaucoup de succès. Finalement, surtout auprès des femmes et filles qui nous écoutent et qui nous voient à des événements et qui ont envie de nous rejoindre, ce qui est trop bien et assez inattendu. Et donc pour l'instant, on a une grande liste d'attente, mais vous pouvez toujours nous contacter et on vous mettra sur cette liste d'attente. Et en fait, l'idée, c'est que si effectivement la liste s'allonge trop et qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs chefs de chœur, en fait, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui puisse diriger les répétitions. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais on a plusieurs personnes, mais pour l'instant, c'est bien d'avoir ces plusieurs personnes qui roulent pour faire marcher ce premier chœur. Mais nous, dans l'idée, on veut développer plein de chœurs, avec plein de chefs de chœur. Et voilà, on espère qu'on pourra être plus grande. Après, on avait aussi envie de rester un groupe, puisque c'est aussi sympa de se connaître, de s'identifier les unes les autres, etc. Alors qu'on aurait pu faire un fonctionnement beaucoup plus large, mais qui est pas tout à fait qui permet pas la même cohésion de groupe, quoi. Et après, à Paris et ailleurs, il y a plein d'autres chorales féministes que vous pouvez aller voir. Par exemple, à Genève, il y a les Nananères. À Paris, il y a les Chanteuses, mais je crois qu'elles sont déjà au complet aussi, qui chantent aussi à Paris. Il y a le Hot Body Choir, mais je crois que je suis pas complètement sûre qu'elle continue cette année. Et ensuite, je sais qu'il y en a à Toulouse, il y a les Cagolphoniques à Marseille. Voilà, il y a plein de chorales féministes avec chacune leur particularité. On ne chante pas la même chose et on ne chante pas de la même façon, mais ça peut être chouette de regarder.
Ok, c'est bon à savoir. Je rajoute, n'hésitez pas à créer votre chorale féministe si vous n'avez pas de place dans celle qu'il y a chez vous ou bien s'il n'y en a pas du tout chez vous. Voilà, on peut aussi passer par l'initiative. Et donc, pour passer aux questions que tu as choisies, d'abord, quelle est ta ou ton héroïne de fiction ?
Alors, c'est Fifi Brin d'Acier.
Ok, pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup lu et vu de livres avec des héroïnes. Et, enfin, en fait, je sais pas, je pense que j'en ai pas lu plus, parce qu'il y en a moins. Donc, je pense pas que j'en ai lu plus, mais en tout cas, j'en ai retenu plus. Et Fifi Brin d'Acier, en fait, c'est quand même un personnage. Quand j'étais petite, voilà, je jouais à être Fifi Brin d'Acier, je me déguisais en Fifi Brin d'Acier. En fait, je trouve que c'est une petite fille hyper, hyper inspirante, parce qu'elle est hyper indépendante. Et l'autrice Astrid Lindgren, qui a écrit Fifi Brin d'Acier, est aussi une femme très inspirante. Mais en fait, Fifi Brin d'Acier, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a pas de père, elle se gère toute seule. Et elle est aussi prise dans des questions d'adultes qu'elle rejette. Et voilà, je trouve qu'elle est hyper inspirante.
Ah bah, ça me donne envie de me replonger dans ses aventures. et ensuite, donc, qui est-ce que tu vois derrière toi ? Qui est la relève pour toi ?
Bah, j'ai choisi cette question parce que justement, je trouve ça hyper enthousiasmant qu'il y ait toutes ces femmes qui nous contactent à la chorale pour nous rejoindre. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais enfin, engagez-vous, montez une chorale, faites quelque chose. Il y a tellement de possibilités et c'est tellement, ça peut être tellement joyeux et tellement galvanisant et tellement empouvoirant que c'est dommage de s'en priver en fait. Et donc, c'est vrai que je vois une relève assez importante et notamment parce qu'à la chorale, il y a des filles très jeunes qui ont 17, 18 ans. Et qui sont hyper, hyper partantes. Et je vois aussi ma petite sœur qui a 19 ans. Ma plus petite sœur, avec ses copines, en fait, où je trouve qu'il y a une vraie énergie qui est différente de la mienne, alors qu'on n'a que 5 ans de différence. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment une relève qui arrive et qui ne laissera pas tomber. J'espère que j'ai raison. Mais voilà, je pense que toutes ces femmes, c'est hyper important.
Alors là, je te rejoins complètement. C'est génial d'avoir assisté ces derniers mois aussi au mouvement, même dans les collèges, dans les lycées, voilà. Et ben merci beaucoup, Colline. À très bientôt. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.